omnipresent question, who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu crées.
It's going to be legendary.
Culturez-vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture.
Camoulox.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion. Je m'appelle Audrey et pour cette deuxième et nouvelle saison, je vous propose de me retrouver à nouveau une fois par mois sur les ondes de Radio Évasion ou en podcast sur les internets directement sur la page Culturez-vous du site de Radio Évasion. Au programme de cette saison, de la culture populaire comme on l'aime bien sûr, pleine de découvertes, de références, de mythes et de tendances. Et pour ça, je vais m'intéresser à celles et ceux qui ont forger cette pop culture. Et sans trop vous dévoiler les réjouissances de cette nouvelle année, je peux vous dire qu'on va partir à la rencontre de grands méchants qui ont traumatisé des générations entières, de films cultissimes bien sûr, de séries devenues des classiques, d'artistes en tout genre bien barrés, sans oublier des mouvements musicaux et populaires de ces dernières décennies. Mais pour commencer en beauté, je vous propose d'écouter l'histoire d'une famille pas comme les autres, une des familles les plus connues du monde de la pop culture. Allez, je vous laisse deviner. Mais oui, tout le monde le connaît, ce morceau avec ses mythiques claquements de doigts. Créé par Vic Mizzy, tout le monde sait aussi qu'il fait référence à la famille la plus étrange et décalée de la culture populaire, la famille Adams. Et quand on parle de la famille Adams, on arrive souvent à s'imaginer tous ses membres, qui sont encore aujourd'hui une référence directe de la contre-culture et un véritable modèle pour tous les adeptes du mouvement gothique. Mais petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié à qui nous avons affaire. Tout d'abord, les parents, Gomez et Morticia. Amoureux passionnés et dévoués à leur famille. Cheveux noirs gominés et sourire ravageur sous une moustache de mafieux impeccable, costume trois pièces et cigare au bec, voilà le père. Une robe moulante noire corbeau sur un corps élancé, le teint blafard, des yeux de biche et de longs cheveux noirs pour la mère. Passons aux enfants. Pugsley et sa petite sœur Wednesday, alias Mercredi. Ces enfants, âgés de respectivement 8 et 6 ans à leur début en 1938, sont aussi décalés que leurs parents et particulièrement reconnaissables, notamment par leur tenue devenue symbolique. Cheveux courts, t-shirt rayé et short pour l'aîné, deux tresses noires posées sur une robe noire au col blanc pour la cadette. Vient ensuite le reste de la famille. Oncle Fester, dit Fétide. Frère aîné de Gomez et éternel célibataire, ce chauve littéralement allumé est toujours vêtu d'une espèce de robe sac noir qu'il traîne à travers toute la maison. Nous avons également la grand-mère, mère de Morticia, cette femme sans âge et la touche mystique à tendance sorcière un peu perchée, particulièrement adepte des malédictions maison. Alors en beaucoup moins mystique, mais en beaucoup plus insolite, on retrouve aussi deux autres personnages iconiques, véritables membres à part entière, et c'est rien de le dire. Pourquoi ? Parce que l'un des membres en question est une main. Oui, oui, une main, sans corps ni tête, une main complètement autonome qui vit et se balade partout dans la maison. Appelé simplement la chose, c'est un peu l'animal de compagnie des Adams, mais en beaucoup plus cool. Enfin, le dernier habitant de cette tribu particulière, c'est Lurch, ou Max, en version française. Sosie quasi-muet de la créature de Frankenstein, il est le valet, le chauffeur et l'armoire à glace de la famille. Voilà donc pour les présentations. Bon, maintenant que tout le monde voit de qui et de quoi on parle, découvrons d'où vient cette famille si cool mais si étrange. Qui lui a donné vie, comment et surtout pourquoi ?1900. 1938, nous sommes en plein dans les années Roosevelt. Clark Gable, Gary Cooper, Greta Garbo ou encore Judy Garland crèvent l'écran et enchaînent les films dans l'esprit Happy End. Tout est beau, lisse et clinquant. Les images et scénarios sont régis par le code de décence imposé par les studios de production pour s'assurer que les films projetés au cinéma respectent les codes moraux de l'époque et n'abordent surtout pas de sujets sensibles tels que la sexualité et notamment l'homosexualité, le non-respect de la loi ou encore la mise en lumière d'un mode de vie dit marginal qui sortirait un tant soit peu de l'image policier de la famille modèle. Et c'est justement là qu'intervient Charles Adams, qu'on appelle aussi Chat Adams. Père des Adams, comme son nom l'indique, ce dessinateur a donné vie à sa petite famille en 1938 dans le journal Le New Yorker et les dessinera jusqu'en 1988, année de sa mort. Magazine favori des intellectuels américains, Le New Yorker est depuis sa création en 1925 réputé pour son style et son sens de l'humour, notamment au travers de ses cartoons sarcastiques. C'est donc là, au cœur de ce journal, que Charles Adams décide de créer une famille en complet décalage avec l'image bien trop lisse de l'époque. Tout au long de ses dessins, il va prendre un malin plaisir à inverser tous les repères et codes moraux liés à la famille ou à la société en général. Là où les gens cherchent la normalité, la famille Adams trouvera la différence.
Culturez-vous, une émission de Pop Culture présentée par Audrey.
Ils sont riches, aiment le lugubre, le gothique et l'effrayant. Leur frontière entre ce que la société voit comme le bien ou le mal est quasi inexistante et le regard que les autres posent sur eux n'a aucune importance. Avec eux se fracasse l'image d'Épinal de la famille radieuse, avec le papa, souvent brun, la maman, souvent blonde, et les deux enfants aux tenues propres et repassées qui jouent dans le jardin, bien vert, bien propre, avec Happy, le gentil petit chien de la famille. Avec les Adams, les enfants jouent avec des haches, de la dynamite ou des poupées décapitées. Quant aux loisirs familiaux, on est plus sur l'exhumation de corps, les jeux à base de chaises électriques ou encore le spiritisme. Les cartoons de Charles Adams sont une véritable satire de la société américaine, une fenêtre ouverte sur l'étrange et le dérangeant. Et paradoxalement, cette horreur hilarante va connaître auprès du public américain et plus tard mondial un réel succès. À tel point que cette famille va pour beaucoup devenir une référence majeure et avoir une influence directe dans les milieux du cinéma, de la télévision ou de la pop culture en général. De nombreux réalisateurs s'inspireront de l'humour noir d'Adams, comme Wes Craven avec l'un de ses plus gros classiques de la saga Freddy, Les Griffes de la Nuit. Mais on a aussi vu les références modernes liées à son esthétique lugubre, notamment via le personnage de Morticia, gothique avant l'heure, qui aura clairement influencé de nombreux artistes des années 80 tels que Elvira, l'animatrice horrifique et iconique, mais aussi des groupes punk tels que les Siouxsie and the Banshees.
Somebody's crashing everywhere. Freak the face.
De retour sur Radio Évasion, vous venez d'entendre Siouxsie and the Banshees avec le morceau Hong Kong Garden. Pour ceux qui nous rejoindraient tout juste, vous écoutez Culture et vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion, et je vous parle aujourd'hui d'une des familles les plus connues de la culture pop, une famille étrange et fascinante. Je veux bien sûr parler de la famille Addams. Si en première partie d'émission nous avons fait les présentations, nous allons maintenant continuer d'avancer dans leur univers gothique si singulier. Revenons aux origines de la gloire. Cette famille, partie de l'esprit satirique de Charles Addams, a donc connu un succès immédiat dès ses premières apparitions en 1938 dans les cartoons publiés dans le New Yorker. Et aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs, dès qu'un succès pointe le bout de son nez, il est très vite exploité, voire surexploité. Alors, quand je parle d'exploitation, soyons un peu plus précis. Ici, on parle de 4 séries, dont 2 en dessin animé, 2 téléfilms, 3 films, une comédie musicale, un flipper mythique, moult livres et pléthore de jeux vidéo et autres produits dérivés qui sortiront dès 1963 et continuent encore aujourd'hui. Ça vous donne une idée du business. Il y a donc eu de nombreuses adaptations, mais la première à marquer les esprits sera la série de 1964, La famille Addams, grâce à qui cette famille, au départ sans nom, va développer une réelle identité. Diffusée sur ABC de 64 à 66, elle ne fera son apparition en France qu'en 1987. La série, directement inspirée des BD, posera les bases des futures adaptations, tant sur le caractère des personnages que l'esthétique globale de l'univers des Addams, notamment sur le manoir. Déjà dessiné dans le New Yorker, on le visualise ici dans sa globalité. Véritable personnage à part entière, le manoir Addams se verra dans un premier temps en mode musée d'histoire naturelle, pour au fil des ans se rapprocher clairement d'un cabinet de curiosités géant. Et si cette demeure au style victorien vous est familière, c'est que vous l'avez sans doute aperçue dans d'autres films, notamment dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Très bon ami de Charles Addams, celui-ci a créé une réplique exacte du manoir Addams pour y loger son Norman Bates. Cette première version du manoir abritera un clan Addams porté par les acteurs John Astin en Gomez et Caroline Jones en Morticia. Alors pour l'anecdote, si John Astin est réputé pour son rôle de Gomez Addams, vous connaissez peut-être aussi son beau-fils, Sean Astin alias Sam Gamgee, partenaire légendaire de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, ou, pour les plus vieux, Mickey, le chef de file des Goonies. Et oui, tout est lié.
Vous écoutez Culture et vous, une émission de culture pop présentée par Audrey.
Et si John Astin et Caroline Jones sont entrés dans la légende de la culture populaire grâce à ses rôles, l'oncle fétide, interprété par Jackie Coogan, avait quant à lui déjà connu la gloire grâce à son personnage du Kid dans le film de Charlie Chaplin. Le reste du casting étant tout aussi fidèle au dessin d'Adams, on note tout de même un petit changement dans l'adaptation sur petit écran. Et ce changement concerne la chose. Dans la série, on voit la chose représentée par une main dans une boîte. Mais à l'origine, la chose était une créature humaine, ou inhumaine, c'est selon, apparaissant de temps en temps et souvent transportée dans une boîte. Et si au départ, ils voulaient en faire une tête coupée pour la série, ils ont vite changé d'avis. Question de morale, mais aussi question pratique. Une main dans une boîte, c'est tout de suite plus simple à gérer. Surtout quand vous vous servez de la main d'un acteur déjà présent. Et oui, dans la série de 64, c'est l'interprète de Max, Ted Cassidy, qui joue la chose, d'où le peu de scènes rassemblant les deux personnages. À l'arrêt de la série en 66, NBC décide de relancer la machine Addams grâce à un dessin animé. Diffusé en 73, ce fut un échec qui ne tiendra que 16 épisodes, mais d'où l'on retiendra tout de même le doublage de l'excellente Jodie Foster pour le personnage de Bugsley. En 77, les studios réunissent le casting original de la série pour tourner un téléfilm qui sera uniquement diffusé pour Halloween. Seule la grand-mère originale, l'actrice Blossom Rock, déjà très malade, sera remplacée pour cette réalisation. Et voilà, nous arrivons enfin en 91, date de sortie du premier film de Barry Sonnenfeld, intitulé sobrement La famille Addams. Mais avant d'entamer le sujet, je vous propose une petite pause musicale. Alors oui, j'aurais pu vous faire écouter le morceau de MC Hammer, Addams Groove, BO officiel du film, mais on va s'épargner ça. À la place, on va plutôt écouter l'un des groupes emblématiques du mouvement gothique des années 80-90, The Cure bien sûr, et leur titre Friday I'm in Love, sorti en 92. Des chanteurs de Noël devant la porte, une famille quelques étages plus haut tenant un chaudron plein de liquide bouillonnant paré à les immerger, voilà comment Barry Sonnenfeld introduit la famille Adams dans son film réalisé en 1991. Et oui, vous êtes toujours sur Culturez-vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion. Et comme vous l'avez deviné, on parle aujourd'hui d'un clan de gothique aussi célèbre que culte, la famille Adams bien sûr. Nous en étions donc au premier film adapté des dessins de Charles Adams pour le cinéma et réalisé donc par Barry Sonnenfeld. Ce réalisateur de 38 ans à l'époque, pas encore réalisateur des Men in Black, est un habitué des frères Coen, avec qui il a déjà travaillé en tant que directeur photo sur plusieurs projets. Mais c'est en réalisateur solo qu'il se lance dans sa première création, La Famille Adams. Pour l'écriture, Sonnenfeld fait appel à Caroline Thompson et Larry Wilson, qui ont respectivement écrit les scénarios de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Édouard aux mains d'argent, Les Noces Funèbres ou encore Beetlejuice. Et oui, malin que vous êtes, vous aurez décelé le point commun entre tous ces films. Ils sont l'œuvre d'un seul et même réalisateur, Tim Burton, dont nous avons d'ailleurs souvent parlé dans cette émission. Et si ses collaborateurs font partie de cette aventure, c'est peut-être parce que Burton avait un temps été approché pour monter le projet, le lien entre son univers sombre et étrange et celui des Adams se faisant assez facilement. Et pour les déçus, inquiétez pas, on reparlera de cette collab avortée pour un temps seulement en fin d'émission. Mais revenons à notre version de 91. Au casting, Raoul Julia, acteur plutôt remarqué dans les années 80, il s'est vraiment fait connaître dans son rôle de Gomez Adams qui lui apportera une popularité mondiale. Sa femme à l'écran sera interprétée par Angelica Huston. Issue d'une famille du cinéma, cette actrice oscarisée restera une morticien cultissime dans les deux volets que compte la saga. Et dire qu'au départ, ils avaient pensé à la chanteuse Cher. Découvert par le grand public pour son rôle dans le 5 fois oscarisé Vol au-dessus d'un nid de coucou, Christopher Lloyd interprétera l'oncle fétide. Mais c'est 10 ans plus tard qu'il passera le véritable cap du culte en tant que Doc Brown, le génial savant des retours vers le futur.
Nom de Zeus !
Mais pour Fétide aussi, son personnage et son interprétation deviendront indissociables de l'image des Adams. Et pourtant au départ, ce n'était pas lui qui était pressenti pour le rôle, mais Anthony Hopkins. L'acteur déclinera la proposition pour se concentrer sur un autre projet, un certain Silence des Agneaux. Enfin, pour terminer sur le casting, on retrouvera également la géniale Christina Ricci en Mercredi Adams. Ado juste mythique, elle change de statut pour les films et devient l'aînée de la fratrie. Particulièrement cynique et singulière, elle sera une machine à punchline tout au long des films.
Est-ce que c'est fait avec des vrais citrons ?
Oui, je n'aime que la nourriture naturelle et les boissons diététiques, à base de produits organiques sans conservateurs.
Vous êtes sûr que les citrons étaient mûrs ?
Oui.
Bon. Voilà ce que je vous propose. J'achète votre jus de citron si vous prenez ma boîte de délicieux gâteaux de Boy Scout. Alors, marché conclu ?
Est-ce qu'ils sont faits avec de vrais Boy Scouts ?
Pour le premier film, toute l'intrigue tourne autour d'un supposé imposteur se faisant passer pour le frère de Gomez disparu depuis des années et voulant faire main basse sur la fortune de la famille. Autour de cette histoire, Barry Sonnenfeld réussira à créer un décor, des personnages et de l'humour noir digne des dessins originaux. Et ce film a beau avoir 30 ans cette année, il reste tout bonnement impeccable. Et croyez-moi, en toute subjectivité, il n'a pas pris une ride. Même Télérama vous le conseille encore, c'est dire. Succès critique et public, il rapportera au studio presque 200 millions de dollars. Vous pensez donc bien qu'une suite a vite été lancée dans la foulée. C'est donc 2 ans plus tard, en 93, que sortira Les Valeurs de la Famille Adams.
Fréquence des contractions.
Toutes les 15 secondes, docteur.
La douleur est-elle vraiment insupportable ? Ma chérie, est-ce une torture ?
Oui.
Forceps.
Forceps. Alors, quelles sont les nouvelles ?
Oui, garçon.
C'est un Adams.
C'est mon portrait craché.
Gomez, enlevez-lui ces choses de la bouche.
C'est un adorable petit bébé.
C'est ça, rajoutez-en.
Pourquoi haïssez-vous ce bébé, les enfants ?
On n'a rien contre lui. On a juste envie de jouer avec.
Avec sa boîte crânienne, surtout.
Vous allez rencontrer quelqu'un, une personne très bien. Qui ne demandera pas de dommages et intérêts.
Quel tueur, celui-là.
Il a été acquitté.
J'imagine que toutes les femmes doivent vous courir après.
Surtout les surveillantes dans les magasins.
Alors la cigogne est descendue du ciel et elle s'est changée en bébé.
Nous, nos parents utilisent leur sexe.
Pour cette suite, l'histoire commence encore une fois avec l'oncle fétide qui rencontre le soi-disant grand amour et décide de se marier. Quant au reste de la famille, elle accueille Puberté, le troisième enfant de Gomez et Morticia. Mercredi et Bugsley découvriront quant à eux les joies du camping à l'américaine. Alors si dans le premier opus, on avait déjà cette touche piquante moquant encore une fois la société et ses codes établis, pour le second, on y va à fond. Le camp Chippewa en est une représentation parfaite. Lieu de rassemblement pour une jeunesse blonde et dorée, ce camping est une photographie parfaite au sourire ultra bright de l'Amérique bien pensante qui verra arriver deux freaks qui seront Mercredi et Pugsley.
Regarde les autres enfants, leurs taches de rousseur, leurs yeux clairs et brillants, leur sourire amical.
Fais ce que tu peux pour eux.
Bonjour, je m'appelle Amanda Buckman. Pourquoi t'es habillée comme ça?
Comme quoi?
Comme si t'allais à un enterrement. À croire que quelqu'un vient de mourir.
Patience.
Bonjour, Don Buckman. C'est quand même autre chose, ce camp de vacances, hein? Vraiment haut de gamme?
Vraiment.
Et oui, il n'y a que des enfants exceptionnels ici. Que des surdoués, que des petits génies. Notre Amanda a 2 ans d'avance, mon cher. Et votre petit garçon?
En conditionnel.
Nous adorons Chippewa. Amanda avait tellement hâte. Elle était excitée comme une puce. Elle a une toute nouvelle garde-robe. Et cette jolie jeune fille? Oh, Mercredi est parfaite. À l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour, l'homicide.
Tout aussi réussi que le premier, ce second film connaîtra pourtant moins de succès au box-office. Mais voilà qui ne freinera en rien les studios, qui produiront dès 92 une nouvelle série animée, puis en 98 un téléfilm intitulé « Les retrouvailles de la famille Adams ». Le téléfilm est ce qu'il est, mais on notera quand même de beaux efforts en termes de casting, avec la présence de Tim Curry, aka le clown Pennywise de Ça en 90, ou Daryl Hannah, qu'on connaîtra aussi sous le nom d'El Driver, la serpent des montagnes de la saga Kill Bill. De 98 à 99, le Canada tentera de relancer la machine Adams avec une nouvelle série. En prise réelle cette fois, qu'il sera un échec en termes de critique et d'audience. 10 ans plus tard, Broadway sort sa comédie musicale qui connaîtra également une version française.
Pour être un Adams, tu dois garder le sens de l'humour. Ah. Pour être un Adams, tu dois aimer le goût de la mort.
Et oui, il y en a qui aiment. Enfin, la dernière adaptation en date est un film d'animation intitulé La famille Adams, réalisé par Conrad Vernon et Greg Tierman, à qui on devait le très décalé Sausage Party. Alors si aux États-Unis les doublages voix sont assurés par Oscar Isaac, Charlize Theron et Finn Wolfhard, nous avons Kev Adams, Mélanie Bernier et Alessandra Sublet. Allez, ne faisons pas les mauvaises. Le film a tout de même reçu de bonnes critiques et aura même droit à une suite, La famille Adams 2, une virée en enfer qui sortira en salle le 13 octobre de cette année. Mais une autre annonce a retenu mon attention. Ce n'est pas un nouveau film, mais bien une série réalisée par ce cher Tim Burton. Intitulée Wednesday, la série diffusée sur Netflix sera axée sur les aventures de Mercredi à la Nevermore Academy, où elle apprendra à maîtriser ses pouvoirs psychiques et s'efforcera de stopper une vague de meurtres. Alors oui, je suis d'accord, ça a beau être Tim Burton, le pitch surprend un peu. Espérons que le casting composé de Jenna Ortega en Mercredi, Louise Guzman en Gomez et Catherine Zeta-Jones en Morticia nous enverra du rêve et sera nous replonger dans l'univers divinement lugubre de cette famille pas comme les autres. Ce projet n'ayant pas encore de date de sortie, on prendra donc notre mal en patience. Et pour patienter justement, je vous propose de me retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission qui sera, je vous l'assure, pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. En attendant, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt.
Omnipresent question. Who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
It's going to be legendary.
Ouais, c'est pas faux.